fichier, vous pouvez déjà ouvrir, si vous le voulez bien, avec moi le deuxième livre de Samuel. Et on va faire une lecture dans quelques instants, mais pour ceux qui nous rejoignent, nous avons considéré dans notre thématique « Il restaure mon âme », nous avons considéré, la dernière fois, nous avons considéré cet épisode tragique de la vie de David où il a dû confronté aux conséquences de ses inconséquences, confronté aux conséquences de ses mauvais choix, où il a appris quel était le prix élevé, très élevé, du compromis. Poursuivi par Saül, on l'a vu, il a fini par craquer sous la pression et il a été se réfugier dans le pays des Philistins chez l'ennemi. Il s'est réfugié chez Achish, ce roi qui était en train de manigancer, qui voyait bien que David était sur une mauvaise voie et qui savait pertinemment que David était en train de le servir. C'est ce que l'ennemi de nos âmes cherche à faire, à corrompre notre identité d'enfant de Dieu et à nous amener à le servir lui. Et c'est vrai que d'un côté, Saül a cessé de le poursuivre, David est tranquille, il a une forme de paix, je mets des grosses guillemets, et il est entré dans un faux refuge. C'est une illusion, c'est un leurre, c'est une utopie, parce que, bien aimé, chaque fois que le diable nous donne quelque chose d'une main, il nous le fera toujours payer, il nous le reprendra toujours 10 fois de l'autre main. Et alors que David pensait être tranquille dans une certaine mesure vis-à-vis de Saül, l'ennemi a fondu sur lui, mais cette fois sous la forme d'une invasion amalécite. Siklag est détruit, brûlé, pillé, et il était dans une situation qui était déjà très compliquée. Il aggrave tout, malheureusement, par des mauvais choix. Il est confronté, comme nous, aux conséquences de ses inconséquences. Mais heureusement, David a su se repentir. Il a su abandonner sa mauvaise voie. Il a réformé sa voie. Et il est revenu de tout son cœur à l'essentiel, il est revenu de tout son cœur à Dieu. Il prend l'éphod, qui est pour lui l'expression désir, de son profond désir, je vous résume ça, parce que c'est le lien avec aujourd'hui, son profond désir de revenir à l'essentiel, de revenir à la présence de Dieu, à ce qu'il avait abandonné 16 mois plus tôt, qui était la cause de son errance et de son échec. Et il nous est dit que David reprend courage en s'appuyant à nouveau sur l'Éternel son Dieu. Il retrouve non pas sa force, mais il retrouve la force de Dieu. Il a consulté Dieu, Dieu lui a répondu. Cette fois-ci, c'est Dieu qui a parlé, fort de la présence de Dieu, fort de sa parole. David a tout ramené par la grâce de Dieu et il a retrouvé le chemin de la victoire. Enfin, il est à nouveau sur les rails de la vie et de la victoire avec son Seigneur. Et c'est là que nous arrivons à 2 Samuel chapitre 1er. Et que nous allons voir que David ne s'est pas contenté simplement d'un mieux ou d'un moment où il s'est un peu rapproché de Dieu, comme nous pouvons le faire parfois les uns et les autres. Non, il avait ce profond désir de réformer ses voies et de changer sa façon d'être et sa façon de vivre. 2 Samuel, chapitre 1er, verset 1er. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Tsiklag depuis 2 jours. Nous descendons au verset 11. David, en apprenant que Saül et Jonathan sont morts au champ de bataille, David saisit, verset 11, ses vêtements, les déchira. Tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Verset 12, ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, à cause de Jonathan son fils, à cause du peuple de l'Éternel, de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Amen. Et on va faire une autre lecture dans quelques instants après sa victoire sur les Amalécites. David ne s'installe plus à Tsiklag, il a compris qu'il n'avait plus rien à faire là-dedans, mais il y repasse simplement, il est sur le chemin du retour, il retourne au pays de Juda, et c'est là qu'il apprend la mort de Saül et de Jonathan. Dans le chapitre précédent, Saül, David le savait, c'est pas que ça lui faisait plaisir, mais il l'avait dit, il l'avait vu, que soit un jour son jour vienne sur le champ de bataille, que l'Éternel, ou que un jour, mais David savait très bien que malheureusement un jour ça se finirait mal pour Saül parce qu'il était mené par son orgueil et Saül était déchu à cause de son orgueil, de son ego et de sa jalousie. Et Saül, se voyant vaincu par les Philistins, il est là sur le champ de bataille. Saül, pour ne pas se laisser capturer, préfère mettre fin à ses jours. Et Saül, nous dit le texte, se jette sur son épée. Oui, tragédie. Celui qui avait été oint, celui qui avait mené le peuple, s'est suicidé. Et c'est aussi dans cette bataille que Jonathan, l'ami le plus cher de David, a succombé. Et là, David, oui, vient de remporter une grande victoire, mais il a à peine remporté une victoire, il apprend déjà des mauvaises nouvelles. Il est de nouveau dans un moment difficile, c'est le deuil, la perte de son ami. Et puis cette fin tragique de Saül, la défaite du peuple, tout ça, ça le retourne. Et c'est un moment qui est très compliqué pour lui. Alors, c'est vrai que David est enfin... Dieu a fini d'une façon ou d'une autre par le délivrer de la main de Saül. David est enfin délivré de la main de Saül. Il va enfin pouvoir accéder au trône. Mais, David a tiré leçon de ses erreurs passées. Il sait ce que ça coûte de prendre des décisions sans avoir consulté Dieu. Il sait quelle est la puissance d'une pensée polluée qui n'est pas la pensée de Dieu. Et là encore, David ne va pas faire n'importe quoi, ne va pas faire n'importe comment. Il va vraiment, alors qu'il est revenu de tout cœur à Dieu, il va maintenant s'enraciner dans cette présence de Dieu et il va à nouveau consulter Dieu pour savoir comment il va falloir faire ce qu'il va devoir faire et comment il va falloir le faire. Et c'est ce qui nous amène toujours en 2 Samuel, mais au chapitre 2 cette fois-ci. Toujours le deuxième livre de Samuel, mais au chapitre 2 et au verset 1er. Après cela, David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui dit « Monte !» Et David lui dit « Où monterai-je ?» Et l'Éternel lui répondit « Monte à Hébron !» David y monta avec ses deux femmes. Verset 3, David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison. Et ils s'installèrent, Yachav, ils s'installèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent. Et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül, etc., etc. Mais nous, c'est surtout la première partie du verset 4 qui nous intéresse aussi. Les hommes de Juda vinrent et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. On descend un petit peu, juste pour le verset 11, s'il vous plaît. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Amen. Pour comprendre, bien aimé, quelle est pour nous la valeur spirituelle d'Hébron, il faut simplement considérer la signification et l'origine d'Hébron dans la parole. Hébron, c'est une région montagneuse qui se trouve à environ 30 km au sud de Jérusalem. C'est une région montagneuse, 30 km au sud, c'est un lieu élevé. Hébron culmine déjà à environ 1000 mètres. Ce qui nous parle déjà d'un lieu élevé. C'est vraiment pour David cette volonté dans son cœur de voir sa vie avec Dieu prendre de la hauteur, de s'élever avec Dieu. Déjà, même s'il ne sait pas exactement où aller, il ne sait pas trop comment ça va se faire et par où il va passer, mais sa question est déjà riche de signification et révèle l'attitude, l'intention de son cœur, puisqu'il dit « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» Donc il y a déjà en lui cette pensée de se dire « Je suis revenu à Dieu, c'est très bien, mais il faut que ça continue, il faut même que ça aille plus loin. Et maintenant Seigneur que je suis là et grâce à toi j'ai remporté une victoire, Seigneur, il faut que j'aille plus loin, il faut que je monte, il faut que ma vie avec toi, Seigneur, elle s'élève. » Et c'est là que le Seigneur lui dit, le seul chemin que je puisse te montrer, je paraphrase à peine, c'est Hébron. Hébron qui signifie association, union, ligue, amitié. Il est question ici de ce moment béni où Dieu va attirer David comme il cherche à attirer tout un chacun dans sa présence. Il va l'amener à cette communion, à cette proximité. Tu as commencé à revenir à Dieu, mais tu as besoin de beaucoup plus de proximité avec Dieu. Tu as besoin d'une véritable union, d'une véritable unité, d'une véritable intimité. Et Hébron, dans la symbolique, dans la valeur spirituelle pour moi, me parle des hauteurs de la vie avec Dieu, de la qualité de relation que je peux avoir avec Dieu Et bien sûr, on va le voir, de la force et de la bénédiction qui vont en découler. De plus, Hébron se trouve sur le territoire de Juda. Juda qui signifie qu'il soit loué, que Dieu soit loué. Donc c'est-à-dire que là, dans la pensée de David, quand il dit « Seigneur, est-ce que je vais monter ?» Oui, mais dans quelle ville de Juda ? Dans sa pensée, il est en train de se dire « À partir de maintenant, il faut vraiment que je centre tout sur toi, Seigneur. Je vais tout miser sur toi. » Il va tout centrer sur l'Éternel, son Dieu. La première mention, on voit que d'autres hommes dans la parole ne s'y sont pas trompés. La première mention d'Hébron, c'est dans le livre de la Genèse. Dans ce moment, certainement, vous connaissez Genèse 13, où Abraham et Lot vont devoir se séparer. Et malheureusement, Lot, lui qui fait un choix égoïste, qui marche par la vue, qui n'a jamais créé un seul autel à UTEL, aucun autel pour Dieu, qui ne le consulte pas, qui n'a dans son cœur pas réellement de considération pour Dieu, il suit beaucoup plus Lot, son oncle, que Dieu. Et Lot, quand il voit la plaine verdoyante et arrosée, malheureusement, il est stupide, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Tout ce qu'il voit, c'est une plaine verdoyante. Il nous est dit, c'était comme un jardin de l'Éternel, mais ça n'en était pas un. Lot s'est, Yachav, installé dans le pays de Sodome et Gomorre. Malheureusement, sa vie a été misérable et sa fin encore plus lamentable que sa vie, malheureusement. Mais Abraham ne s'est pas trompé de priorité. Et Abraham, lui, il savait ce qui avait de la valeur, il savait ce qui était vraiment important. Et Abraham a commencé à monter. Alors que Lot restait dans la plaine, dans la facilité, qu'il était dans son cœur terriblement attaché à ce monde et à cette misère, au point que vraiment il s'identifiait à cela. Mais Abraham, lui, savait ce qui avait de la valeur, il ne s'est pas trompé de priorité. Et il a commencé à monter, parce que, bien aimé, la vie avec Dieu, oui, il y a des grandes bénédictions, mais oui, ça coûte. Oui, ça me prend du temps. Oui, il faut que je fasse des choix tranchés parfois. Oui, il faut que je fixe les vraies priorités. Oui, il y a des moments, c'est dur. Oui, il y a des moments, j'ai pas envie. Oui, j'ai des tas de bonnes raisons, on le verra. David aurait pu mettre en avant des tas de raisons pour pas aller plus loin avec Dieu et montrer que c'était pas le temps. Mais David y a été et Abraham, lui, il s'est pas trompé de priorité. Il sait ce qu'il y a de la valeur et il commence à monter vers Hébron et il va s'installer. Yachav, il s'installe, il demeure, il reste aux chênes de Mamré, qui signifie force, vigueur, qui sont justement près d'Hébron, et c'est là qu'il va trouver la vigueur et la force dont il a besoin pour le reste de son périple. Très intéressant, le contexte d'Abraham et le contexte de David, ça fait des parallèles vraiment intéressants. Le contexte d'Abraham est très intéressant parce qu'au moment où il va commencer à monter vers Mamré et qui est à côté d'Hébron, c'est là que Dieu vient de lui renouveler sa promesse. La promesse de faire de lui une multitude nombreuse, de lui donner le pays où il se trouve, de lui donner une postérité. Et en d'autres termes, oui, ça y est Abraham, la voie est ouverte. Oui, Dieu a un plan pour toi. Oui, Dieu a un projet. Oui, Dieu a un avenir pour toi. Oui, Dieu a un avenir, tu as un avenir en lui. Oui, qui que tu sois, tu as un avenir par lui. Mais Abraham, et là David pareil, Abraham n'a pas foncé tête baissée. Abraham a pris le temps d'aller s'installer à Hébron, c'est la valeur spirituelle qu'on va en dégager ce matin pour nous. La première chose qu'il a faite, c'est de marcher en direction d'Hébron, parce qu'il sait que rien ne sera jamais possible sans la force de sa présence. Et même s'il y a une promesse, eh ben je risque de vous choquer, les promesses de Dieu, pardon, non, ne suffisent pas. Voilà, c'est clair. La promesse de Dieu ne suffit pas. Il y a un chemin à pratiquer. Il y a un chemin de bénédiction. Si Dieu est à l'origine de toute chose, s'il est aussi la finalité de toute chose, Dieu restera toujours d'une façon ou d'une autre le moyen de toute chose. Et la route à emprunter pour aller vers l'avenir que Abraham s'était vu promettre, que David s'était vu promettre, la route qu'il fallait emprunter, c'était celle d'Hébron. Il faut monter avec Dieu. Et c'était ça qui allait faire toute la différence. Plus tard, vous regarderez bien Josué à l'époque de la conquête, après les conquêtes, au moment du partage du pays, Josué chapitre 14, chapitre 15, il y a un vieux routard, comme je les aime beaucoup, un vieux routard, Caleb, 85 ans Caleb, 85 ans. Et quand son tour vient et que là, il faut partager le pays, Josué dit à Caleb, qu'est-ce que tu veux comme partie dans le pays? Et Caleb ne s'y trompe pas. Caleb regarde Hébron et il dit, donne-moi cette montagne. Mais dis donc, tu sais que c'est dur, Hébron. Tu sais que Hébron, ça va être compliqué. Tu sais qu'il y a des géants. Oui, oui, je sais, il y a les enfants d'Anak. Il y a Shéchaï, Aïman, Talmaï. T'inquiète pas, je vais en faire qu'une bouchée. Il a mis tout le monde dehors. Il s'est emparé d'Hébron et il a installé sa vie sur les hauteurs avec Dieu. C'est simple, mais il fallait y penser quand même. Hein. Et on a bien du mal. Et même contexte pour David. Oui, David, il est déjà oint par Samuel. David aurait pu dire, mais Seigneur, attends, ton prophète Samuel m'a déjà oint. C'est quand même pas rien. Oui, oui, tu as été choisi de Dieu. Amen. Tu as été appelé de Dieu, il y a un appel sur ta vie dans ton cœur. Pas de problème. Amen. Ça ne te dispensera pas de vivre ensuite sur des hauteurs avec Dieu et de vivre ensuite des onctions nouvelles. Et David avait déjà été oint par Samuel, il y avait un appel sur sa vie. Certes, oui, Saül est mort, la route semble dégagée, enfin le trône et enfin l'accomplissement d'une promesse. Mais ça ne se fera pas sans les ressources de Dieu. Ça ne se fera pas sans la force de Dieu. Ça ne se fera pas sans la présence de Dieu. Il n'y a aucune forme de restauration possible, même quand on commence à aller mieux, bien aimé, si on ne va pas s'installer spirituellement parlant à Hébron et qu'on prend la force de Dieu, qu'on s'y installe, parce que c'est ça, on va le voir, qui a préparé l'avenir et un bel avenir pour David. Et monter à Hébron, c'est bien plus qu'une invitation, c'est même un impératif. Monte, monte à Hébron. Et pour David, ça a été à ce moment-là, lui qui commençait à revenir à Dieu, lui qui avait compris qu'il ne devait plus reproduire les erreurs passées. Il ne devait plus reproduire les mêmes schémas. Et il s'est dit, Seigneur, je vais monter avec toi. Je vais où ? Monte à Hébron. Et ça, c'était à ce moment-là le besoin au-dessus de tous les besoins. Et notez bien, ça fait partie du contexte et ça nous concerne aussi. Dieu ne te demande pas de monter plus loin avec lui au moment où ça t'arrange. Dieu ne te demande pas de monter, d'aller plus loin avec lui au moment où tu t'en sens capable. Dieu ne te demande pas de monter avec lui au moment où tes circonstances sont favorables. Il te le demande parce que c'est le seul chemin de la vraie vie, de la force spirituelle et de la vraie bénédiction. C'est le chemin de ton avenir. Tu n'auras jamais d'avenir spirituellement parlant si tu ne connais pas Hébron. Tu auras une église évangélique, il y aura toujours une association cultuelle déclarée, il y aura toujours un conseil d'administration, tu auras toujours ta chaise qui sera réservée pour toi, tu auras toujours, il y aura toujours des frères, il y aura toujours des chants, il y aura toujours des musiciens. Mais ça, ça va 3 minutes. La question, c'est spirituellement parlant, tu n'as jamais d'avenir, tu ne seras jamais la personne que Dieu veut que tu sois, tu n'accompliras jamais les œuvres qu'il veut que tu accomplisses si tu ne connais pas le chemin d'Hébron. Hébron, c'est incontournable. Tournable. Abraham a compris, Caleb a compris, David a compris, tous les hommes de Dieu, dans la parole et en dehors de la parole, ont compris que pour ne pas reproduire les mêmes schémas, pardon, pour ne pas se louper dans les mêmes erreurs, pour ne pas être toujours confronté aux mêmes péchés, aux mêmes limites, aux mêmes incapacités, aux mêmes querelles, aux mêmes caractères, aux mêmes problèmes, aux mêmes ceci, aux mêmes, et pas reproduire sans cesse les mêmes choses pour qu'au bout de 20 ans, 30 ans, pardonnez-moi, tu te regardes, tu te dis, mais j'ai ça de 20 ans, ça c'est tout. Il faut, mon bien-aimé, qui que tu sois, il faut que tu trouves le chemin d'Hébron et il faut que tu t'y installes. Ah, c'est le seul chemin. Hébron dans la restauration est incontournable, tôt ou tard. Et si tu ne trouves pas ce chemin-là avec Dieu, ça va être très compliqué, la vie va être creuse. David, je vous dis, le Seigneur ne te demande pas au moment où ça t'arrange le plus. David avait de quoi être lassé, vous ne croyez pas? David avait de quoi en avoir un petit peu marre. Bon, c'est vrai, il est quand même responsable des 16 mois de dégâts qu'il vient de vivre. Mais enfin, quand même, il sort quand même d'une période difficile. Il vient encore de mener un combat. Dieu lui a donné la victoire sur les Amalécites. Amen. Il a tout ramené. Amen. Il a été béni. Amen. Mais il sort encore d'un combat. Puis en plus, David, il est en deuil. Le peuple est dans un état lamentable. Il est dans la défaite. Et ça lui fait un mal terrible. Le roi qui avait été oint de Dieu est tombé, s'est suicidé. Ça lui fait un mal terrible. Il n'a pas dit, ouais, chouette, super, bien fait pour lui, je lui avais dit. Non, chaque fois qu'un peuple est à la ramasse, c'est le cœur de Dieu qui saigne. Quand un homme de Dieu, un responsable, même un disciple, chute, c'est le cœur de Dieu qui saigne. Et David est profondément affecté. Et en plus, il est dans le deuil, son meilleur ami, Jonathan, est mort. Et là, à ce moment-là, David, il aurait eu bien des raisons de dire, Seigneur, s'il te plaît, pas maintenant. Seigneur, plus tard. Seigneur, demain. Seigneur, est-ce qu'il va falloir maintenant que je paye ? Je vous le dis, je pèse mes mots. Est-ce que je vais payer ? Oui, ça se paye. Je vais payer le prix d'une ascension spirituelle. Je ne peux pas entrer directement en fonction. Seigneur, tu m'as oint par Samuel il y a des années. C'est bon, je suis ton enfant, je suis appelé. On peut y aller là, Seigneur. Non, 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 non. Il n'y a pas de restauration s'il n'y a pas Hébron. Et David, à ce moment-là, il sait ce qui est vraiment important pour lui et pour les siens. Alors je sais pertinemment que vous ne pouvez pas forcer vos enfants à venir à Jésus et à les amener à la conversion, à la nouvelle naissance. Ça ne marche pas. Hein. On a tous essayé, hein. Ça ne marche pas. Mais David, lui, il a été s'installer à Hébron et les siens ont suivi. Mon frère, je parle avant tout à des hommes, à des frères. Est-ce que tu vas installer Hébron dans ta maison ? Ça, c'est une vraie question. David est monté avec les siens. Mais les siens, ils ont fait quoi ? Ils ont suivi. Ils ont vu un homme vraiment qui méritait ce titre de roi, de disciple, un homme qui avait vraiment le cœur de Dieu. Ça les a interpellés, ils ont suivi. Tu ne peux pas emmener tes enfants à la conversion, tu ne peux pas les forcer. Mais tu peux installer Hébron dans ta maison et je te le dis de la part du Seigneur. Et ça, ça peut faire vraiment la différence, ça va faire la différence. Pardon, c'est la seule chose qui fera la différence pour tes gosses, pardon, si tu mets Hébron dans ta maison. Et David l'a fait. Et David monte, il a compris qu'Hébron est incontournable, c'est tellement logique. Hébron, c'est les hauteurs de la vie avec Dieu, quelques bienfaits d'Hébron, bien-aimés. Hébron, c'est les hauteurs de la vie avec Dieu. Hébron, c'est une proximité, c'est une qualité de vie. Vous avez déjà remarqué, je ne sais pas, quand on va en altitude, ah, l'air est plus léger, l'air est plus pur, hein. Ça va tout de suite mieux. Un jour, j'étais en randonnée avec... mon beau-frère qui est dans la région de Grenoble, et puis il me dit, viens, on va aller faire une randonnée, on va partir tôt le matin, on va aller marcher, j'étais en congé. Puis il me dit, je vais te montrer un spot dans les Alpes, je vais te montrer un spot qui surplombe toute la vallée, tu vas voir, c'est magnifique. Donc on se lève tôt, on commence à monter un peu en voiture, au bout d'un moment on ne peut plus monter, on prend les sacs et on commence à crapahuter, il m'a fait crapahuter 4-5 heures je crois de mémoire. Et là on arrive effectivement à un endroit, à un spot, c'est vraiment, c'est magnifique. Puis l'air est pur là-haut, et puis on a une vue dégagée, et puis je vois effectivement, je vois toute la ville de Grenoble juste en bas comme ça. Puis je lui dis, c'est marrant parce qu'on est au-dessus des nuages. Je lui dis, c'est marrant parce que quand on est parti, il n'y avait pas de nuages, ils sont arrivés. Il me dit, ah non, 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 c'est pas les nuages, c'est la pollution. Quand on est en bas, frères et sœurs, beaucoup de bien-aimés, à force d'être toujours, toujours scotché, pardon, aux réalités terrestres, de ne vivre que pour la terre, que pour l'humain, que pour le matériel, que pour leur boulot, leur baraque, leur machin, leur bidule. On a des pensées qui sont polluées, polluées, polluées. Il y a des tas de choses en nous, des pensées qui sont polluées. On est dedans, on ne s'en rend même pas compte. Mais quand on commence à monter et à prendre de la hauteur avec Dieu et qu'on commence à regarder les choses de beaucoup plus haut, on dit « Ah, ouais. Ah, il n'y avait pas de quoi être fier, oui, c'est sûr. À Hébron, tu seras loin de la pollution de ce monde. » Ça va te faire tellement de bien pour ton âme. Et bien souvent, bien aimé, c'est parce qu'on n'est pas à Hébron, qu'on est toujours infecté, qu'on est toujours pollué, qu'on est toujours affaibli par les choses de cette terre, qu'on est écrasé par des préoccupations terrestres, problème sur problème, préoccupation sur préoccupation. Mais pasteur, c'est ça la vie chrétienne ? Non, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, elle ne se vit que à Hébron. Désolé. Tu réformes ton agenda. Tu débrouilles, tu fais des coupes franches, tu t'arranges, c'est entre toi et Dieu. Mais de toute façon, il va falloir que tu révises tes priorités, il va falloir que tu réorganises tout si tu veux aller à Hébron, parce que ce sera le prix à payer. Mais quand tu seras à Hébron, là tu vas avoir une dimension de vie qui va être largement différente. C'est à cause d'une pensée polluée que David est parti s'égarer 16 mois chez Achish. Et quand je suis à Hébron, merci Seigneur, j'ai des pensées pures. Mes pensées sont pures, elles sont purifiées. Mes pensées sont alignées sur la pensée de Dieu. Une vie qui est tellement plus proche de Dieu amène tellement plus de repos. Les problèmes sont toujours plus petits vus d'en haut. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça aussi c'est un des bienfaits de l'altitude. Allez vous mettre au pied du Mont Blanc, 4800 mètres.
Ouais.
Puis un jour, en prenant l'avion, j'allais à Strasbourg et le pilote dit « Ah, mesdames et messieurs, le temps est magnifiquement dégagé. Vous pouvez regarder sur votre droite. Vous pouvez observer le Mont Blanc. » Je le cherchais tellement il était petit. Le monsieur à côté me dit « C'est le truc là-bas, là, ça, c'est le Mont Blanc. » Je dis « C'est ça le Mont Blanc ?» Ah, je dis « Mais il est... » Oui, mais forcément, vu d'en bas, c'est une montagne, mais vu d'en haut, quand tu es à 10 000 pieds, 4807 mètres. Vous savez, bien aimé, quand on est dans la présence de Dieu, vraiment, les problèmes de la terre, tout est une histoire de perspective. Hein. Et là, quand je suis à Hébron, je peux commencer vraiment à voir les choses avec le regard des dieux. Je ne suis plus en train de subir la vie ici-bas, mais j'apprends vraiment, comme David, mais je l'apprends spirituellement, j'apprends ce qu'on appelle régner dans la vie. Ce n'est pas une vie sans problème, mais j'apprends par la présence de Dieu, j'apprends à, prenez une autre image, hein, allez, Matthieu 14, j'apprends à marcher sur les eaux déchaînées, j'apprends à régner dans la vie, j'apprends à ne plus subir les circonstances, mais c'est seulement sur les hauteurs de sa présence, c'est seulement sur les hauteurs de sa présence que tu vas apprendre à régner sur tout ce qui se présente à toi, sur ce qui te domine. Mais pour ça, il ne faut pas se tromper de priorité, il faut monter à Hébron. Et c'est ce que David a fait. Quel exemple pour nous, pour moi. Je me prêche à moi-même. Ça doit être ma priorité autant que celle de n'importe quel enfant de Dieu. Hébron, là aussi, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que Hébron, il n'y a pas de meilleur endroit pour préparer l'avenir. C'est là que l'avenir se prépare. Alors en altitude, puisque les obstacles n'ont pas disparu. Ça, ce n'est pas dans la pédagogie de Dieu. Les obstacles ne disparaissent pas toujours, pas tout de suite. Avant de les faire disparaître, Dieu veut que je prenne de la hauteur. Mais comme les obstacles sont beaucoup plus bas, ne sont plus un problème, ne sont pas le vrai problème, mon champ de vision est parfaitement dégagé. Et je commence à voir spirituellement les choses avec tellement plus de clarté, tellement plus de lucidité. Il y a tellement d'évidences spirituelles qui viennent se graver dans mon cœur. La parole, par le Saint-Esprit, devient un livre complètement nouveau. Et les choses s'éclairent les unes après les autres. Et j'apprends à vivre, à voir les choses, les gens, les circonstances, Dieu, moi, ce monde, n'importe quelle circonstance. J'apprends à tout voir avec le filtre de la parole. Et j'apprends à voir bien, j'apprends à voir de loin. Vous savez, frères et sœurs, savoir vivre à Hébron, ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement. C'est un investissement d'avenir. Et c'est pour ça que Dieu m'y appelle. Et c'est pour ça que Dieu insiste. Parce qu'il ne veut pas qu'un matin, pardon, je me réveille au bout de 15, 20, 25, 30 ans. Je me dise, mais c'est ça ma vie? Tout ça pourquoi? Oui, ben, je suis sauvé, j'irai au ciel. Ben, encore heureux, on est sauvé par la repentance et la foi. Merci Seigneur. Mais pour tout le reste, en attendant d'aller au ciel. Seigneur, c'est... Et Dieu insiste parce qu'il veut me faire vivre l'avenir qu'il a pour moi. David est là, il est en train de préparer l'avenir, il ne perd pas son temps. David a une tâche immense devant lui, immense. Rien, au moment où il va monter à Hébron, rien n'est réglé. Oui, il est délivré de la main de Saül, mais il reste encore Abner. Il y a un problème sérieux qui s'appelle Abner, c'est le chef de l'armée de Saül. Il y a encore un gros problème qui s'appelle Ishbosheth, le fils de la honte, qui est un fils de Saül, qui est sur le trône de Jérusalem. Il y a encore les Jébusiens. Parce que c'est un peuple qui encombre encore Yébus du nom de Jérusalem avant qu'elle s'appelle Yerushalayim. Yébus qui encore, les Jébusiens sont là parce qu'ils n'ont pas été chassés à l'époque de Josué. Donc quand David sait qu'il va arriver au trône, mais il sait qu'il a une œuvre considérable, il y a d'autres combats qui l'attendent. Et comment est-ce qu'on va préparer tous ces combats? Eh bien, il va les préparer dans la présence de Dieu. Alors oui, Saül est mort, mais tout n'est pas réglé pour autant. Le royaume n'est pas encore unifié. Il y a Abner, il y a Ishbosheth, il y a les Jébusiens. Mais David, lui, il reste à Hébron. David est resté 7 ans et 6 mois à Hébron, alors qu'il savait que le trône de Jérusalem, de Yerushalayim, lui était destiné. Il est resté 7 ans à Hébron. Et vous savez ce qu'il a fait, David? Ben, comme à l'époque de Saül, il a tenu bon. Il a dit non, moi je n'entrerai pas dans des combats charnels. Je ne toucherai pas à Abner. Non, je ne toucherai pas à Ishbosheth. Je ne touche pas, je ne me bats pas contre Dieu, la chair et le sang. Et il n'a touché à personne. Et c'est Dieu qui, par un concours de circonstances dont lui seul a le secret, qui va dégager Abner, qui va dégager Ishbosheth, qui ensuite va permettre, vous lirez 2 Samuel 5, ensuite c'est les gens d'Israël n'ayant plus de roi qui vont venir chercher David et qui vont le oindre une troisième fois. Oint par Samuel lors de son appel, oint par les gens de Juda lorsqu'il faut prendre le règne de Juda, oint par les gens d'Israël quand il va falloir prendre le règne d'Israël. Et c'est là qu'ensuite David va monter, il va conquérir Yerushalayim, il va mettre les Jébusiens à la porte, il va leur reprendre ce qu'ils avaient de façon indue depuis trop longtemps, et là le royaume va être unifié. David va entrer dans des grandes victoires, il va fortifier Jérusalem, Jérusalem qui signifie fondement de la paix. Il va fortifier Jérusalem et il va l'agrandir. Et vous lisez ensuite derrière, vous vous apercevez que Dieu a donné à David de la réussite. Dieu a donné à David des victoires. Dieu lui a donné encore des victoires sur les Philistins. Dieu lui a encore donné des victoires. Et Dieu a étendu à faire fermer. Frères et sœurs, est-ce qu'on va rester sans jusqu'au retour de Jésus? Il a affermi, étendu, affermi, étendu, affermi, étendu, affermi, étendu. Comment c'est venu tout ça? Hébron, 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 monte à Hébron. Et si tu connais le chemin d'Hébron, ne t'inquiète pas pour le reste. Ton avenir, par la grâce de Dieu, est toujours tout tracé. Tu es à Hébron. C'est Dieu qui agit en ta faveur. C'est Dieu qui donne les victoires. Alléluia. Hébron, pour terminer, Hébron, c'est un mode de vie. C'est une façon d'être. C'est une façon de penser. C'est une façon de raisonner. C'est une façon de se positionner. C'est une façon, c'est un choix. Quotidien, c'est une façon de choisir. Hébron, et c'est une façon de vivre, parce que ce n'est pas juste le temps, un instant. Hébron, ce n'est pas juste un moment dans un culte, une réunion de prière. Amen, c'est bien, merci Seigneur. Ce n'est pas juste un bon moment de temps en temps avec Dieu. Hébron, c'est une façon de vivre. Ils, Yachav, ils se sont installés, restés, demeurés. Ils ont habité Hébron, et ce n'était pas de temps en temps. Hébron, c'est devenu pour David un mode de vie, c'est une façon d'être. Et c'est comme ça qu'il y est resté plus de 7 ans et demi, et qu'après ces 7 ans et demi, lorsque les gens d'Israël sont venus le chercher, il a régné ensuite 33 ans sur Israël et Juda. Ça lui a fait un règne de plus de 40 ans, parce qu'il avait su faire d'Hébron un principe de vie. Ça a été la même chose pour Abraham à Mamré, la même chose pour Caleb à Hébron. Frères et sœurs, Hébron, c'est un lieu spirituel incontournable pour chaque enfant de Dieu. C'est ta restauration d'abord, mais c'est ton avenir aussi qui en dépend. Hébron, c'est l'appel du maître. Hébron, c'est du bon sens. Hébron, c'est un lieu incontournable. Hébron, pardon, il n'y a aucune excuse qui tient devant Hébron. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que Hébron. Il n'y a rien de mieux pour toi que Hébron. C'est les hauteurs d'une vie de qualité, c'est une proximité. Hébron, c'est la force de sa présence en toi. Hébron, c'est la source de toutes tes bénédictions. Hébron, c'est la source de toutes les victoires à venir. Hébron, c'est la clé de ton avenir. David a compris qu'il fallait absolument aller, pas se contenter d'un retour à Dieu, mais qu'il fallait affermir tout ça et monter plus haut. Et quand il a dit, Seigneur, est-ce que je vais monter dans une des villes de Juda ? Implicitement, Seigneur, j'ai envie d'aller plus loin avec toi. Le Seigneur lui a dit oui, viens, monte à Hébron, parce que c'est là la clé de ton avenir. Et c'est comme ça qu'il est devenu ce roi que nous connaissons. Amen. Et si c'est pour lui, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre vous. On se recueille, on prie en